Quoique ce produit de nos nouvelles lumières et de nos nouvelles connaissances n'ait pas atteint le but qu'on se proposait, je ne puis cependant m'empêcher de croire qu'un tel traitement exercé envers des créatures humaines doit être révoltant pour tous ceux qui sont destinés à accomplir des révolutions. Mais je vais plus loin. Guidé par les sentiments innés en moi-même, et n'étant illuminé par aucun de ces rayons modernes d'une lumière nouvellement créée, je vous avoue, monsieur, que le rang élevé des personnes que je vois souffrir, que particulièrement le sexe, la beauté, les qualités aimables d'un rejeton de tant de rois et d'empereurs, joint à cela l'âge tendre de ces illustres enfants que leur bas âge et leur innocence seuls devaient préserver des outrages barbares auxquels leurs parents étaient exposés, loin d'être pour moi un sujet de tressaillement de joie, ajoute beaucoup à ma sensibilité dans cette triste circonstance. J'ai entendu dire que l'auguste personne qui était le principal objet du triomphe de notre prédicateur, quoiqu'elle sût se contenir, fut très affectée de cette occasion honteuse. Comme homme, le roi devait éprouver des sentiments douloureux pour sa femme, pour ses enfants et pour les fidèles gardes de sa personne qu'on avait massacré de sang-froid autour de lui. Comme prince, il devait s'étonner de la transformation étrange et effroyable de ses sujets civilisés et devait être plus peiné pour eux que pour lui-même. Sa conduite s'écarte peu de son courage, tandis qu'elle ajoute infiniment d'honneur à son humanité. Je suis bien fâché de le dire, bien fâché, en vérité, que de tels personnages sont dans une situation qui ne permet pas qu'on nous blâme de louer la vertu des grands. J'ai appris, et je me suis réjoui de l'apprendre, que l'illustre dame, l'autre objet du triomphe, avait supporté pendant ce jour, on aime à savoir que des êtres destinés à souffrir sachent se conformer à leur situation, et qu'elle supporta de même, pendant tous les jours qui le suivirent, l'emprisonnement de son mari, sa propre captivité, l'exil de ses amis, les flatteries insultantes des adresses et tout le poids des injustices accumulées avec autant de calme que de force, d'une manière convenable à son rang et à sa naissance, et digne de la fille d'une souveraine distinguée par sa piété et par son courage. Que comme elle, elle a des sentiments élevés, que ses sentiments sont ceux d'une romaine, que jusqu'au dernier moment, elle sera supérieure aux plus grandes infortunes, et que, s'il faut qu'elle succombe, elle ne succombera pas sous une main abjecte. Il y a actuellement 16 ou 17 ans que je vis la reine de France, alors dauphine, à Versailles. Et sûrement, jamais astre plus céleste n'apparut dans cette orbite qu'elle semblait à peine toucher. Je la vis au moment où elle paraissait sur l'horizon, l'ornement et les délices de la sphère dans laquelle elle commençait à se mouvoir. Elle était ainsi que l'étoile du matin, brillante de santé, de bonheur et de gloire. Oh, quelle révolution! Et quel cœur faudrait-il avoir pour contempler sans émotion cette élévation et cette chute? Que j'étais loin de m'imaginer, lorsque je la voyais inspirer à la fois la vénération et l'enthousiasme d'un amour respectueux, qu'elle dût un jour avoir à se défendre contre l'infortune dont le germe était dans son sein. J'étais encore plus éloigné de m'imaginer que je dusse voir de mon vivant de tels désastres l'accabler tout à coup, chez une nation vaillante, pleine de dignité, chez une nation composée d'hommes d'honneur et de chevaliers. Je croyais que 10 000 épées seraient tirées de leur fourreau pour la venger du premier regard qui l'aurait menacée d'une insulte. Mais le siècle de la chevalerie est passé. Celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé. Et la gloire de l'Europe est éteinte à jamais. Jamais, non jamais, nous ne reverrons cette généreuse loyauté envers le rang et envers le sexe, cette soumission fière, cette obéissance, cette subordination du cœur qui, dans la servitude même, conservait l'esprit d'une liberté exaltée. L'ornement naturel de la vie, cette défense si généreuse des nations, cette pépinière de tous les sentiments courageux et des entreprises héroïques, tout est perdu. Elle est perdue, cette sensibilité des principes, cette chasteté de l'honneur pour laquelle une tache était une blessure, qui inspirait le courage en adoucissant la férocité, qui ennoblissait tout ce qu'elle touchait, et qui faisait perdre au fils lui-même la moitié de son danger en lui faisant perdre toute sa grossièreté. Ce système, mélangé d'opinions et de sentiments, avait son origine dans l'ancienne chevalerie. Et ce principe, quoique varié en apparence par l'état inconstant des choses humaines, a conservé son influence et a toujours existé pendant une longue suite de générations, même jusqu'au temps où nous vivons. S'il devait jamais s'éteindre totalement, la perte, je le crains, serait énorme. C'est lui qui a donné son caractère à l'Europe moderne. C'est lui qui lui a donné son lustre dans toutes ses formes de gouvernement et l'a distingué à son avantage des empires de l'Asie et peut-être de ceux qui ont fleuri dans les périodes les plus brillantes de l'Antiquité. C'était ce même principe qui, sans confondre les rangs, produisait une noble égalité et parcourait tous les degrés de la vie sociale. C'était cette opinion qui abaissait, en quelque façon, les rois au niveau de leurs sujets et qui élevait des âmes privées à la hauteur de leurs princes. Sans force ou sans résistance, elle subjuguait la fierté de l'orgueil et celle du pouvoir. Elle obligeait les souverains à se soumettre au joug léger de l'estime sociale. Elle forçait l'autorité sévère à plier devant l'élégance et faisait qu'une domination supérieure aux lois obéissait quelquefois soumise aux usages. Mais maintenant, tout va changer, et les illusions séduisantes qui rendaient le pouvoir aimable et l'obéissance libérale, qui donnaient de l'harmonie aux différentes ombres de la vie, et qui, par une douce assimilation, incorporaient dans la politique les sentiments qui embellissent et adoucissent la société privée, s'évanouissent devant ce nouvel empire irrésistible des lumières et de la raison. On arrache avec rudesse toutes les draperies décentes de la vie. On va rejeter pour jamais, comme une morale ridicule, absurde et antique, toutes ces idées que l'imagination nous représente comme le riche mobilier de la morale. Ces idées que le cœur avoue et que l'entendement ratifie comme nécessaires pour couvrir les défauts de notre nature nue et tremblante, et pour l'élever dans notre propre estime à la hauteur de sa dignité, sont bafoués comme le serait une mode ridicule, absurde et surannée. Dans ce nouvel ordre de choses, un roi n'est qu'un homme, une reine n'est qu'une femme, une femme n'est qu'un animal et non du premier ordre. On traite de romanesque et d'extravagant tous les hommages que l'on rendait au beau sexe en général et sans distinction d'objet. Le régicide, le parricide, le sacrilège ne sont plus que des fictions superstitieuses propres à corrompre la jurisprudence en lui faisant perdre sa simplicité. Le meurtre d'un roi, d'une reine, d'un évêque ou d'un père ne sont que des homicides ordinaires. Et si, par hasard, on en commettait qui pussent tourner au profit du peuple d'une manière quelconque, de tels homicides devraient être très pardonnables et l'on ne devrait jamais, à cet égard, faire de recherches sévères. D'après le système de cette philosophie barbare, qui n'a pu naître que dans des cœurs glacés et des esprits avilis, système aussi dénué de sagesse que de toute espèce de goût et d'élégance, les lois n'ont plus d'autre gardien que la terreur qui leur est propre, et elles n'existent que par l'intérêt que les individus pourront y trouver d'après leurs spéculations secrètes, ou à les éluder pour leur avantage personnel. On ne verra dans les bosquets de leurs académies et dans les lointains de tous leurs points de vue que des potences. La chose publique est désormais dépouillée de toutes les ressources propres à gagner l'affection. D'après les principes de cette philosophie mécanique, aucune de nos institutions ne peut jamais être personnifiée, si je puis m'exprimer ainsi, de manière à faire naître en nous l'amour, la vénération, l'admiration ou l'attachement. Mais cette sorte de raison qui bannit ainsi toutes les affections est incapable de les remplacer. Les affections publiques combinées avec les mœurs sont quelquefois nécessaires comme supplément, quelquefois comme correctif et toujours comme soutien de la loi. Le précepte donné par un homme, aussi sage qu'il était critique judicieux pour la construction des poèmes, peut s'appliquer aussi bien aux États. La beauté ne suffit pas, il faut des grâces pour plaire. Horace. Chaque nation devrait avoir un système de mœurs que tout esprit bien fait pût goûter. Pour nous faire aimer notre patrie doit être aimable. Mais le pouvoir, d'une nature ou d'une autre, survivra au choc qui a anéanti les mœurs et les opinions, et il trouvera d'autres moyens, et des moyens pires encore, pour se soutenir. L'usurpation, qui, afin de renverser les anciennes institutions, a détruit les anciens principes, soutiendra son pouvoir par des manœuvres semblables à celles qui le lui a procurées. Lorsque sera détruit dans le cœur des hommes ce vieux, ce féal et ce chevaleresque esprit de loyauté qui affranchissait à la fois les rois et les sujets des précautions de la tyrannie, alors les complots et les assassinats seront remplacés par des meurtres et par des confiscations, et l'on verra se dérouler ces maximes atroces et sanguinaires que renferme le code politique de tout pouvoir qui ne repose ni sur son propre honneur, ni sur celui de ceux qui doivent lui obéir. Les rois deviendront tyrans par politique lorsque les sujets seront rebelles par principe. Lorsque l'on bannit toutes les anciennes opinions et toutes les anciennes règles de la vie, c'est une perte qu'il est impossible d'évaluer. Dès ce moment, nous n'avons plus de boussole pour nous gouverner et nous ne savons jamais distinctement vers quel point nous voguons. L'Europe, prise en masse, était sans contredit dans une position florissante le jour où vous avez consommé votre révolution. Il n'est pas aisé de dire jusqu'à quel degré nos anciennes mœurs et nos vieilles opinions influaient sur cette prospérité. Mais comme de telles causes ne peuvent pas être indifférentes dans leur action, nous devons présumer que, dans l'ensemble, leur effet était avantageux. Nous ne sommes que trop disposés à envisager les choses dans l'état où nous les trouvons, sans donner une attention suffisante aux causes qui les ont produites et qui peut-être les maintiennent encore dans ce même état. Il est bien démontré que nos mœurs, notre civilisation et toutes les bonnes choses qui sont inséparables des mœurs et de la civilisation dans cette partie de l'Europe dépendaient et étaient certainement le résultat, depuis des siècles, de deux principes combinés ensemble. Je veux dire l'esprit de noblesse et l'esprit de religion. La noblesse et le clergé, l'un par sa profession, l'autre par sa protection, ont perpétué l'existence du savoir, même au milieu des armes et de la confusion, et tandis que les gouvernements existaient plutôt dans leurs éléments qu'ils n'étaient formés. Le savoir paya en retour à la noblesse et au clergé ce qu'il leur devait, et le paya avec usure, en étendant leurs idées et en ornant leurs esprits. Heureux s'ils eussent tous continué à connaître leur union indissoluble et leur propre place. Qu'il eût été heureux que le savoir, non égaré par l'ambition, se fût contenté d'instruire et n'eût pas aspiré à gouverner. Comme ses protecteurs naturels et ses gardiens, il sera jeté dans la boue et foulé aux pieds sous les sabots d'une multitude grossière. Si, comme je le soupçonne, la littérature moderne doit beaucoup plus qu'elle n'a jamais voulu en convenir aux mœurs anciennes, il en est de même des autres intérêts que nous estimons pour le moins autant qu'ils valent. Le commerce même, le négoce et les manufactures, les dieux de nos politiques économistes, ne sont peut-être eux-mêmes que des créatures, ils ne sont eux-mêmes que des effets que nous aimons mieux adorer comme des causes premières. Ils ont certainement acquis une grande extension sous le même abri qui a fait fleurir le savoir. Ils peuvent aussi déchoir en même temps que leurs principes protecteurs et naturels. Il paraît, quant à présent du moins, que le tout est menacé de disparaître à la fois chez vous. Lorsqu'un peuple n'a ni commerce ni manufacture, et que cependant l'esprit de noblesse et de religion lui reste, le sentiment y supplée, et il ne remplit pas toujours mal leur place. Mais si les arts et le commerce venaient à se perdre dans une expérience qui serait faite pour éprouver comment un État peut subsister sans noblesse et sans religion, ces deux antiques principes fondamentaux, quelle espèce de chose serait alors une nation composée de barbares grossiers, stupides, féroces, en même temps pauvres, sordides, privés de religion, d'honneur, d'une fierté mâle, dénués de tout pour le présent et n'ayant rien à espérer pour l'avenir? Je souhaite qu'il vous soit possible de ne pas arriver bien vite et par le chemin le plus court à cette horrible et dégoûtante situation. On reconnaît déjà dans tous les procédés de l'Assemblée et de tous ceux qui l'endoctrinent une conception pauvre, grossière et vulgaire. leur liberté n'est pas libérale, leur savoir est une présomptueuse ignorance, leur humanité est une brutalité sauvage. Il n'est pas bien décidé si en Angleterre nous avons reçu de vous ces grands et salutaires principes et ces mœurs dont nous conservons encore des traces très profondes, ou si vous les avez empruntées de nous. Mais je crois que c'est de vous que nous les tenons. Il me semble que vous êtes, gentis incunabula nostrae, le berceau de notre nation. La France a toujours influé plus ou moins sur les mœurs de l'Angleterre, et quand cette source sera arrêtée et corrompue, le cours de son onde sera bientôt interrompu, ou bien elle ne nous arrivera que troublée, et il en sera peut-être de même à l'égard des autres nations. De cette circonstance, il résulte, selon moi, que l'Europe entière n'a que trop de raisons pour considérer tout ce qui se passe en France sous le rapport de son intérêt prochain et immédiat. C'est pourquoi vous m'excuserez sans doute de m'être arrêté aussi longtemps sur le spectacle atroce du 6 octobre 1789, ou d'avoir donné trop de carrière aux réflexions qui me sont venues à l'esprit à l'occasion de la plus importante de toutes les révolutions, de celle que l'on peut dater de ce jour. Je veux dire un changement dans les sentiments de l'âme, dans les mœurs et dans les opinions les plus importantes. En l'état où sont maintenant les choses, où tout ce qui est respectable est détruit, et où l'on essaie de renverser parmi nous tout principe de respect, on a presque besoin d'apologie pour donner un éloge aux sentiments ordinaires de l'humanité. Pourquoi suis-je affecté si différemment que ne l'est le révérend docteur Price et ceux de son troupeau laïque, à qui il plaît d'adopter les sentiments de son discours? Par cette raison toute simple, parce qu'il est naturel que je le sois. Parce qu'il est dans notre nature d'éprouver une tristesse profonde au spectacle de l'instabilité du bonheur et de l'incertitude effrayante de la grandeur humaine. Parce que, dans ces émotions naturelles, nous recevons de grandes leçons. Parce que, dans des événements semblables, nos passions instruisent notre raison. Parce que, lorsque les rois sont précipités du haut de leur trône par le directeur suprême de ce grand drame, et qu'on les expose à devenir l'objet des insultes de la populace et de la pitié des honnêtes gens, ces désastres font au moral la même impression que les miracles au physique. Ces alarmes nous conduisent à réfléchir. Nos esprits, comme on l'a observé depuis longtemps, sont purifiés par la terreur et par la pitié. Notre faible et imprévoyant orgueil est humilié à la vue des œuvres d'une sagesse mystérieuse. Si un tel spectacle m'eût été représenté au théâtre, des larmes auraient coulé de mes yeux. Je serais en vérité bien honteux de découvrir en moi ces émotions superficielles et théâtrales pour des malheurs imaginaires, tandis que je pourrais me réjouir de ceux qui ne sont que trop réels. Si j'avais un esprit aussi pervers, je ne voudrais jamais me risquer à montrer mon visage à aucune tragédie. On pourrait croire que les larmes que Garrick m'a fait verser autrefois, ou que celles que Mistress Siddons m'a arrachées depuis, n'étaient que les larmes de l'hypocrisie. Je les croirais les larmes de la folie. En vérité, le théâtre est une meilleure école de sentiments moraux que les temples où l'on outrage ainsi l'humanité. Les poètes qui parlent devant un auditoire qui n'a pas encore reçu ses grades dans l'école des droits de l'homme et qui sont obligés de se conformer à la constitution morale du cœur n'oseraient produire au théâtre un tel triomphe comme un sujet d'admiration. Dans ces lieux où les hommes suivent leur impulsion naturelle, ils ne supporteraient pas les maximes odieuses d'une politique machiavélique appliquée aux entreprises d'une tyrannie monarchique ou démocratique. Ils les rejetteraient sur le théâtre moderne, comme ils le firent jadis sur le théâtre antique, où ils ne purent supporter la proposition, même hypothétique, d'une telle scélératesse dans la bouche d'un tyran personnifié, quoiqu'elle convînt au caractère du rôle. Une assemblée, au théâtre d'Athènes, n'aurait pas supporté ce qu'il a été au milieu de la véritable tragédie de ce jour de triomphe. Un acteur principal qui, pesant comme à des balances suspendues dans une boutique d'horreur, tant de crimes effectifs contre tant d'avantages à espérer, et ensuite, ajoutant ou retirant des poids, prononce que la balance est du côté des avantages. Elle n'aurait pas supporté de voir les crimes de la nouvelle démocratie enregistrés comme dans un livre de comptes, en opposition avec les crimes de l'ancien despotisme. Et les teneurs du livre politique, trouvant la démocratie encore en débat, mais nullement dépourvue de la volonté ni des moyens d'acquitter la balance. Au théâtre, le premier aperçu d'une semblable méthode ferait voir, sans aucun effort de raisonnement, que de tels calculs politiques justifieraient le crime dans toutes ses extensions. Il ferait voir qu'avec de tels principes, si les choses les plus affreuses ne s'exécutaient pas, les conspirateurs le devaient plutôt à leur bonne fortune qu'à leur parcimonie à prodiguer le sang et la trahison. Il ferait voir aussi que lorsqu'une fois les moyens criminels sont tolérés, ils sont bientôt préférés. Ils vont plus droit à leur objet que la grande route des vertus morales. Si l'on justifie la perfidie et le meurtre par la considération du bien public, le bien public lui sert bientôt de prétexte, et la perfidie et le meurtre deviennent le but jusqu'à ce que la rapacité, la méchanceté, la vengeance et la crainte, plus épouvantables que la vengeance, puissent assouvir leur insatiable appétit. Telles doivent être les conséquences de la perte de toutes les idées naturelles du bien et du mal dans l'éclat du triomphe des droits de l'homme. Mais le révérend pasteur s'enthousiasme de ce triomphe parce que véritablement Louis XVI est un monarque absolu, ce qui signifie en d'autres termes, ni plus ni moins, que c'est parce qu'il était Louis XVI et parce qu'il avait eu le malheur de naître roi de France, avec les prérogatives qu'une longue suite d'ancêtres et le consentement permanent de son peuple lui avait transmises sans aucun acte de sa part. Ce fut réellement pour lui un grand malheur de naître roi de France. Mais un malheur n'est pas un crime, et une indiscrétion n'est pas toujours la plus grande des fautes. Je ne croirais jamais qu'il méritât un pareil traitement, ce prince dont le règne n'offre dans tout son cours qu'une suite de concessions faites à ses sujets, qui a consenti à relâcher de son autorité, à abandonner ses prérogatives, à accorder à son peuple une étendue de liberté que leur père ne connaissait et ne désirait peut-être pas. Un tel prince eût-il été sujet aux faiblesses communes à l'humanité, eût-il une seule fois jugé qu'il était nécessaire de réprimer par la force les projets furieux manifestement dirigés contre sa personne et contre les restes de son autorité, quoique toutes ces choses méritent d'être prises en considération, ce ne sera, dis-je, jamais qu'avec la plus grande difficulté que l'on pourra me faire croire qu'il mérita ce triomphe insultant et cruel de Paris et celui du docteur Price. Je tremble pour la cause de la liberté, d'après de semblables exemples donnés au roi. Je tremble pour la cause de l'humanité quand je vois rester impunis les outrages des hommes les plus pervers. Mais telle est la tournure d'esprit basse et dégénérée de certaines gens qu'ils regardent avec une sorte de soumission et admirent les rois qui savent régner avec fermeté, étendre une main rigide sur leurs sujets, maintenir leurs prérogatives et par la vigilance active d'un despotisme sévère se tenir en garde contre les approches de la liberté. Ce n'est pas contre de tels monarques qu'ils élèvent jamais la voix. Déserteurs de tout principe, enrôlés sous l'étendard de la fortune, ils ne voient jamais aucun mérite dans la vertu souffrante, ni aucun crime dans l'usurpation heureuse. Si l'on avait pu parvenir à me démontrer clairement que le roi et la reine de France, je veux dire ceux qui l'étaient avant le triomphe, étaient des tyrans cruels et inexorables, qu'ils avaient concerté un plan pour massacrer l'Assemblée nationale, et je crois avoir lu quelques insinuations de ce genre dans certains ouvrages, je trouverais leur captivité juste. Si cela est vrai, on aurait dû encore aller plus loin, mais en s'y prenant d'une autre manière. Le châtiment des vrais tyrans est un acte de justice noble et imposant, et c'est avec vérité qu'on a dit de plus qu'il était consolant pour l'esprit humain. Mais si j'avais à punir un roi méchant, j'aurais attention à la dignité en vengeant le crime. La justice est grave et décente, et dans ses arrêts, elle paraît plutôt se soumettre à une nécessité que faire un choix. Si Néron, ou Agrippine, ou Louis XI, ou Charles IX eussent été l'objet de cette justice, si Charles XII, roi de Suède, après le meurtre de Padkoul, ou si Christine, qui régna avant lui, après le meurtre de Monaldeschi, était tombé entre vos mains, monsieur, ou dans les miennes, je suis certain que votre conduite aurait été différente. Mais si le roi français, ou le roi des Français, ou sous quelque nom qu'il soit connu dans le nouveau vocabulaire de votre constitution, avait réellement mérité d'attirer sur sa personne et sur celle de la reine ces mesures meurtrières que personne n'avoue, que personne ne venge, et toutes les indignités qui les ont suivies, plus cruelles encore que le meurtre, un tel personnage mériterait mal d'être choisi pour exercer même le pouvoir exécutif subordonné qui, à ce que j'entends dire, doit lui être confié. Il ne serait pas plus propre à être nommé le chef d'une nation qui l'aurait outragé et opprimé. On ne pourrait pas faire un plus mauvais choix que celui d'un tyran déposé pour lui confier une telle charge dans un nouvel état. Mais dégrader et insulter un homme comme le plus vil des criminels et le revêtir ensuite du soin de vos intérêts les plus précieux comme un fidèle, honnête et zélé serviteur, cela n'est ni conséquent en bonne logique, ni prudent en politique, ni sûr dans l'exécution. Ceux qui conféreraient un tel pouvoir à une telle personne seraient coupables d'un abus de confiance bien plus grand qu'aucun de ceux qu'on ait jamais commis envers le peuple. Comme ce crime est le seul dans lequel vos guides politiques aient agi avec inconséquence, j'en conclus qu'il n'y avait aucun fondement à toutes ces horribles insinuations. Je n'ai pas meilleure opinion de toutes les autres calomnies.